Chapitre 3e. Calvin à Nérac chez Roussel et Lefebvre. Tandis que François Ier s'efforçait d'étouffer la réformation dans le nord de la France, elle se répandait dans le Midi. Bien des âmes étaient converties dans les contrées qui touchent aux Pyrénées. Des chrétiens évangéliques d'autres pays, parmi lesquels se trouvaient des ministres, s'y étaient réfugiés, et des bourgs et des villages se pervertissaient tout d'un coup en entendant un seul prêche, dit un historien catholique. En certains jours, de simples paysans, et même quelques habitants des villes, arrivés par divers sentiers, se réunissaient dans un lieu écarté, au fond du lit desséché de quelque gave ou dans quelque grotte de la montagne. Souvent, le prédicateur se faisait longtemps attendre. Les prêtres et leurs agents l'obligeaient à faire de longs détours. Quelquefois même, il n'arrivait pas. Alors on voyait, dit un catholique, des dames surmontant la pudeur de leur sexe, prendre la Bible, la lire, et se donner même la hardiesse de l'interpréter en attendant le ministre. Ce fut à cette époque que la reine de Navarre arriva dans le Midi. Le bruit causé en 1533 par le discours du recteur et la disparition de Calvin l'avait engagée à quitter Saint-Germain pour se rendre dans les états de son mari. Le roi, son frère, était alors éloigné de Paris, ses nièces près de leur gouvernante, mesdames de Brissac et de Montréal, et l'étiquette un peu triste et un peu lourde qui régnait à la cour de la reine Éléonore de Portugal ne souriait guère à l'intelligence et vive Marguerite de Navarre. Elle se dirigea donc sur Nérac. Deux litières avec 6 mules, 3 mulets de coffre et 3 ou 4 chariots pour les femmes de la reine entrèrent dans la ville et se dirigèrent vers le vaste château gothique des d'Albret. C'était un train fort modeste pour la sœur de François Ier. Marguerite descendit de sa litière et, à peine établie dans ses appartements, elle se sentit heureuse. Elle avait maintenant échappé aux luttes et aux pompes de la cour de France. Elle pose ses magnifiques vêtements et ses grandes manières. Elle cache la majesté de sa maison sous une candeur, une bienveillance qui enchante tous ceux qui l'approchent. Vêtue comme une simple demoiselle, elle sort du château, elle franchit la balise qui sépare la ville en deux parties. Elle parcourt les belles promenades des environs, n'ayant pour compagnie que la sénéchale de Poitou, ou une de ces jeunes dames d'honneur. Mais elle était venue pour autre chose. Ayant fui loin des palais et des cités où soufflait l'esprit persécuteur de Rome et du Parlement, elle s'appliquait surtout à donner un élan nouveau au mouvement évangélique dans les contrées du Midi. Son activité était inépuisable. Elle envoyait des colporteurs qui s'insinuaient dans les maisons et, sous prétexte de vendre des bijoux aux damoiselles, leur présentait des nouveaux testaments imprimés en beaux caractères, réglés en rouge, reliés en velin et dorés sur tranche. La vue seule de ces livres, dit un historien, inspirait le désir de les lire. Autour de la reine, tout s'agitait, travaillait, bourdonnait, comme une ruche d'abeilles. Marguerite, dit l'historiographe du roi, était l'œillet précieux qui ornait ce parterre et dont le parfum attirait en Béarn les meilleurs esprits de l'Europe, comme le thym attire les mouches à miel. Souvent, on voyait la reine entourée d'une troupe d'affligés auxquels elle montrait un tendre respect. C'étaient les réfugiés, Lefebvre d'Étaples, Gérard Roussel, des moines et des prêtres convertis et un certain nombre de laïcs obligés de quitter la France, ce qu'ils avaient pu faire grâce à la reine qui avait favorisé leur fuite. « Vraiment, disait un catholique, cette bonne princesse n'a rien de plus à cœur que de faire évader ceux que le roi veut livrer aux rigueurs de la justice. Si je voulais donner les noms de tous ceux qu'elle a arrachés au supplice, je n'en finirais pas. » Les chrétiens exilés pour l'Évangile ne lui faisaient pas oublier les malheureux du pays. Un jour que Roussel lui peignait la position douloureuse d'une pauvre famille, Marguerite ne dit rien. Mais, rentrant dans ses appartements, elle jeta sur ses épaules sa cape de Béarn et, prenant un seul domestique, sortit par une porte dérobée, courut vers ses affligés et les consola avec une tendre affection. Elle se plut à établir plusieurs écoles. Son chapelain Roussel se rendait dans l'humble local où des enfants du peuple apprenaient à lire et à écrire, et, s'approchant d'eux, il leur disait « Mes petits enfants, la mort de Jésus-Christ est une vraie expiation. Il n'est de péché si petit qu'il en ait besoin, ni de si grand qu'il ne puisse être effacé par elle. Priez Dieu, leur disait-il encore, ce n'est pas barboter des lèvres. La prière est un ardent et sérieux colloque avec Dieu. » Il se trouvait pourtant dans cette réforme du midi un trait qui, aux yeux de Calvin, la rendait imparfaite et, si l'on n'y portait pas remède, passagère. Il y avait, selon lui, un certain compromis entre la vérité et l'erreur. Le pieux, mais faible Roussel, faisait preuve dans ses enseignements d'une fâcheuse condescendance. Fatigué des luttes qu'il avait soutenues, il s'abritait sous le manteau de l'Église catholique. Il n'adressait pas de prières à la Vierge, il donnait la communion sous les deux espèces. Mais il célébrait une espèce de messe, triste et pourtant touchant exemple de ce christianisme mixte qui prétendait garder sous la forme catholique la vie évangélique. Calvin, à Angoulême, n'était pas éloigné de Nérac, et souvent ses regards se portaient vers cette ville. Il désirait voir Lefèvre avant que le vieillard fût rappelé du monde, et il était inquiet à l'égard de Roussel. Il craignait de le voir succomber aux séductions des grandeurs. Une des pensées chrétiennes qui avait saisi son âme avec le plus de force, c'était la conviction que la sagesse d'en haut doit rejeter tout mélange, conseillé par l'ambition ou l'hypocrisie. Ne chercherait-il pas à remettre dans la bonne voie Roussel qui semblait s'en écarter ? Calvin quitta donc la maison de Dutillet, probablement vers la fin février, arriva à Nérac et se rendit aussitôt chez Roussel. Le plus décidé et le plus modéré des théologiens du XVIe siècle se trouvèrent en présence. Calvin, de sa nature timide et craintif, n'eut jamais été si hardi même que d'ouvrir la bouche, comme il s'exprime. Mais la foi en Christ engendrait si grande assurance en son cœur qu'il ne pouvait rester muet. Il exposa donc avec décision sa pensée. « Il ne reste rien de bon dans le catholicisme, dit-il. Il faut rétablir l'Église dans son antique pureté. »« Que dites-vous ? » répliqua Roussel étonné. « La maison de Dieu doit être purifiée, sans doute, mais non pas abattue. »« Impossible, » reprit le jeune réformateur. « L'édifice est si mauvais qu'il ne peut être réparé. Il faut le mettre bas tout à fait et en élever un autre à la place. » Roussel, effrayé, s'écria « Il faut nettoyer l'église, mais sans y mettre le feu. Si nous nous ingérions de l'abattre, nous serions écrasés sous ses ruines. » Calvin se retira affligé. Type, au XVIe siècle, de la décision protestante, il protesta toujours librement, hardiment, contre tout ce qui était contraire à l'Évangile. Ce ne fut pas seulement en opposition aux tendances catholiques qu'il montra cette inébranlable fermeté. Il fit de même pour les idées rationalistes. Il ne serait pas difficile de trouver dans Zwingle, dans Melanchthon et même dans Luther certaines étincelles néologues dont on n'aperçoit aucune trace dans Calvin. Nérac, nous l'avons dit, renfermait un autre docteur, un vieillard que l'âge aurait pu rendre plus faible que Roussel, mais qui, sous ses cheveux blancs et son air décrépit, cachait des forces vives, que le contact avec la grande foi du jeune savant devait soudain ranimer. Calvin s'enquit de la demeure de Lefèvre. Tout le monde le connaissait. C'était un bout d'homme, vieux comme Hérode, mais vif comme le salpêtre, disait-on. Lefèvre, nous l'avons vu, avait, même avant Luther, professé la grande doctrine de la justification par la grâce. Mais après tant d'années, le vieux docteur en était encore à la vaine espérance de voir le catholicisme se réformer lui-même. « Il ne doit y avoir qu'une église, » répétait-il souvent, et cette pensée l'empêchait de se séparer de Rome. Néanmoins, ses vues spiritualistes lui permettaient de conserver l'unité de la charité avec tous ceux qui aimaient Christ. Calvin, admis en sa présence, discerna le grand homme sous sa taille chétive et fut saisi par le charme qu'il exerçait sur ceux qui l'approchaient. Quelle douceur, quelle profondeur, quelle science, quelle modestie, quelle candeur, quelle noblesse, quelle piété, quelle grandeur morale, quelle sainteté, disait-on. Il semblait que toutes ses vertus illuminassent d'une clarté céleste le vieillard au moment où la nuit du sépulcre allait l'envelopper de ses voiles. Le jeune homme, de son côté, plut à Lefèvre, qui se mit à lui raconter comment l'opposition de la Sorbonne l'avait obligé à se réfugier dans le Midi, pour échapper, disait-il, aux mains sanguinaires de ses docteurs. Calvin chercha à dissiper les illusions du vieillard. Il lui montra qu'il fallait tout recevoir de la parole et de la grâce de Dieu. Il parla avec clarté, avec décision, avec vie. Lefèvre, ému, fit un retour sur lui-même et pleura. « Hélas, dit-il, je connais la vérité, mais je me tiens à l'écart de ceux qui la professent. » Il se remit pourtant de son trouble. Il essuya ses larmes et, voyant son jeune compatriote rejeté toutes empêtres, entraves, de ce monde et s'apprêter à guerroyer sous l'enseigne de Jésus-Christ, il l'examina plus attentivement et se demanda s'il n'avait pas devant lui le futur réformateur qu'il avait jadis annoncé. « Jeune homme, lui dit-il, vous serez un jour un puissant instrument du Seigneur. Le monde résistera obstinément à Jésus-Christ et il vous semblera que tout conspire contre le Fils de Dieu. Mais demeurez ferme sur ce rocher et plusieurs se briseront contre lui. Dieu se servira de vous pour restaurer en France le royaume du ciel. » En 1509, Luther, ayant l'âge que Calvin avait en 1534, entendait de la bouche d'un vieux docteur la même prophétie. Toutefois, si nous devons en croire un historien catholique, le vieillard n'en resta pas là. Ses regards, arrêtés avec complaisance sur le jeune homme, trahissaient quelques craintes. Il lui semblait voir un jeune coursier dont l'élan serait sans doute admirable, mais qui pourrait avoir de fâcheux écarts. « Tenez-vous en garde, ajouta-t-il, contre l'ardeur extrême de votre esprit. Proposez-vous Mélenchon pour modèle et que votre force soit toujours tempérée par la charité. » Le vieillard serra la main du jeune homme et ils se quittèrent pour ne plus se revoir. Calvin vit-il aussi la reine de Navarre ? Il ne paraît pas que Marguerite résida dans ce moment à Nérac, mais il eut quelques rapports avec elle. On a dit qu'elle s'intéressa à son exil. Il est possible que cette princesse ait eu quelques pas à la résolution qu'il prit bientôt de quitter le Midi. Elle l'assura peut-être que s'il ne faisait pas d'imprudence, il n'avait plus rien à craindre à Paris. Mais nous n'avons rien trouvé de décisif à cet égard. Pour le moment, Calvin retourna chez Du Tillet. Les visites faites à Roussel et à Lefèvre lui avaient donné une leçon. Il comprit que ce n'étaient pas seulement les âmes soumises aveuglément à Rome qui couraient d'imminents dangers, il conçut de vives alarmes pour ces esprits qui flottaient entre le pape et la parole de Dieu, soit par faiblesse, soit par défaut de lumière. Il reconnut que la limite entre les deux églises n'étant pas encore bien tracée, quelques-uns de ceux qui appartenaient à Rome venaient se promener sous les ombrages frais et verts de l'Évangile, et quelques-uns de ceux qui devaient appartenir à la Réformation erraient sous les voûtes gothiques des cathédrales romaines et se prosternaient au pied des autels. Cet état de choses, que plusieurs approuvent peut-être, Calvin le crut dangereux, et, ses principes allant plus loin, il entreprit de rédarquer librement, comme il parle, ceux qui, s'accouplant avec les infidèles, leur tenaient compagnie en idolâtrie externe.